Vous écoutez RTL.
RTL Matin, Yves Calvi.
Dans quelques instants, nous serons avec Laurent Gérard, mais tout de suite, la revue de presse et Amandine Bégaud. Et d'abord, voilà qu'il va sans doute déculpabiliser sans doute bon nombre de parents.
Amandine. Oui, non, les écrans ne sont pas mauvais pour les petits. Ce n'est pas moi qui le dis, mais Télérama, l'hebdomadaire, qui publie cette semaine un grand dossier sur ce débat aussi vieux que la télé et qui donne la parole, c'est assez rare pour le souligner, à un certain nombre d'experts plutôt dubitatifs à l'égard de ceux qui réclament l'interdiction pure et simple de la télé, des smartphones et des tablettes pour les plus jeunes. Franck Ramu, directeur de recherche au CNRS l'assure, il n'y a aucune raison de penser que les écrans puissent empêcher un cerveau de se développer et d'ajouter, on sait bien que les enfants élevés dans un placard ne se développent pas normalement et on n'incrimine pas pour autant l'exposition au placard, des propos volontairement provoques. Mais il n'est pas le seul. Télérama raconte ainsi cette passe d'armes en janvier dernier en Angleterre en réaction à une lettre ouverte au gouvernement britannique de spécialistes de l'enfance qui réclamait des recommandations officielles en matière d'usage des écrans. Plus de 80 chercheurs, ce n'est pas rien, ont pris la plume pour dénoncer ce qu'ils appellent une panique morale dénuée de tout fondement scientifique. On sait, explique Franck Rému, qu'il y a bien une corrélation entre le temps passé devant la télévision et divers indices du développement intellectuel. Mais d'autres facteurs, il faut le rappeler, entrent en jeu. Le niveau d'éducation des parents, les revenus de la famille, les interactions aussi parents-enfants, jouer avec son enfant. Bref, tout ceci n'est qu'une question de dosage. D'autant que les écrans peuvent avoir du bon. Télérama, mais aussi le monde des ados, évoque ce matin le boom de la littérature jeunesse sur Internet. Désormais, c'est sur Wattpad, BookNode ou encore Livre Addict que les plus jeunes lisent. 60 millions de visiteurs chaque mois dans le monde pour Wattpad. C'est une application qui a été créée en 2006 par deux amis canadiens qui permet à chacun de lire, mais aussi d'écrire des textes. À la une de vos quotidiens, le déplacement d'Emmanuel Macron en Afrique et le président a visiblement réussi son pari. Si l'on en croit la presse française, le Parisien évoque ainsi un discours de rupture avec la France-Afrique. Le Figaro salue un discours réussi, direct et rénové, en affirmant qu'il n'y a plus de politique africaine de la France. Emmanuel Macron a été clair, écrit Patrice Chabanet du journal de la Haute-Marne. La politique africaine de la France est finie. Bye bye la France-Afrique. Satisfecit a nuancé toutefois, puisque les éditorialistes dans leur ensemble regrettent l'absence de mesures concrètes, à l'image de Laurent Geoffrin dans Libération. S'il a fait la différence sur la forme, écrit-il, sur le fond, la rupture est moindre. Pour Laurent Baudin de l'Alsace, il faudra plus qu'un bon discours pour faire oublier la France-Afrique et restaurer des relations apaisées avec une partie de l'Afrique en colère. Le Canard Enchaîné, lui, fait ce matin une petite mise au point. Après la sortie du livre de Patrick Stefanini, l'ancien directeur de campagne de François Fillon, l'hebdomadaire satirique s'agace de voir resurgir le débat autour de Fillon savait, ne savait pas, du ce complot qui aurait été fomenté par le Canard. En réalité, explique le journal, quand François Fillon dit qu'il n'a pas été interrogé avant Noël, eh bien, il joue sur les mots. Le Canard, à l'époque, ne sait rien de l'emploi de Pénélope Fillon à la revue des Deux Mondes. En revanche, le journal a commencé son enquête sur les comptes de celui qui est alors candidat, échange de courriers avec ceux qui sont en charge de sa com. Il faudra attendre le 13 janvier, après Noël donc, pour que le Canard Enchaîné, alerté par une petite mention dans les déclarations du candidat à la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique, demande des explications concernant les revenus du couple. C'est la première fois, écrit le Canard, que François Fillon, n'en déplaise à Patrick Stefanini, est interrogé directement sur l'argent touché par sa femme. La suite, on la connaît. Dans Paris Match, vous découvrirez cette semaine un grand entretien avec Saad Hariri. « Je suis toujours en danger de mort », déclare le Premier ministre libanais. « J'ai beaucoup d'ennemis », explique-t-il. Les extrémistes, le régime syrien aussi. Ce dernier, ajoute-t-il, a prononcé une peine de mort dans son pays. Paris Match, qui, dans un tout autre registre, relève ce matin une anecdote qui m'avait échappé, les confidences de Laura Smet. Dans une interview accordée au magazine Femina, l'actrice raconte comment son père, Johnny Hallyday, l'a initié très tôt à l'une de ses passions, les films d'horreur. Oui, j'ai été élevée avec ça, de Stephen King, avec Chucky, la poupée de sang que mon père m'avait offerte, raconte-t-elle. C'était mignon, dit-elle quelques années plus tard, car il pensait que ça allait m'endurcir, alors que je réveillais ma mère à 3h du matin parce que j'avais envie de faire pipi et que j'avais peur que la poupée me saute dessus. On y revient, les écrans, oui, mais attention tout de même.
Amandine Bégaud.